Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu local,
on se met à découvert.
Les instants des Bartas.
Ce sont des interviews, des reportages ou des chroniques.
Les lundis et mercredis à 8h30.
Les mardis, jeudis et samedis à 17h.
Ou le vendredi à 11h.
Un créneau curieux de tout.
Qui parle de vous.
Du local et un peu d'autre chose.
Les instants des Bartas.
Sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Bartas. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans les instants des Bartas et au programme aujourd'hui. En deuxième partie d'émission, je vous propose d'écouter l'interview que j'ai réalisée de Gary, le chanteur de Massilia Sound System, et de Hakim, le chanteur de Zebda. C'était à Chanac. Ils étaient là tous les deux pour les 70 ans de René Lacaille au festival Au Son. Alors vous allez l'entendre, c'est une interview qui part en why, un grand moment de vie, bref, ce sera tout à l'heure. Ils m'ont vraiment accordé beaucoup de temps, l'après-midi des balances était absolument génial, ce sera tout à l'heure. Et tout de suite en studio, nous sommes avec Marie-Laure Giraud, bonjour.
Bonjour.
Et Nathalie Roux, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, un ouvrage collectif est sorti, Habiter le monde au fil de soi, récit de vie et éco-formation. Ouvrage auquel vous avez participé, on va en parler. Le livre est paru aux éditions L'Harmattan sous la coordination de Dominique Cottereau. Merci à tous les deux d'être avec nous. La première question, elle est assez simple. Hein. C'est quoi l'éco-formation, Marie-Laure?
Waouh, vaste sujet.
Ouais, c'est pour ça que j'ai mis assez simple.
C'est pas la question la plus simple.
C'est vrai.
Alors, l'éco-formation, ça vient de Gaston Pinault qui, en 1991, travaillait sur les récits de vie et comment on pouvait les utiliser en formation pour adultes. Et il s'est rendu compte que dans ces récits de vie, en fait, beaucoup de personnes faisaient référence à la nature. Donc, c'est, tiens, il y a quelque chose, en fait, dans la formation de l'individu qui se joue autour de la nature. Et donc, il est reparti des trois maîtres de la vie posés par Rousseau dans l'Émile ou de l'éducation. Et qui dit que, en fait, dans ce qui nous forme dans la vie, il y a les hommes, bien sûr, les choses et la nature. Et donc, Gaston, il a formalisé la théorie tripolaire de la formation qui dit qu'un individu se forme par plusieurs biais. Par la socio-formation, donc par la formation par les autres, donc c'est l'école, l'université, même les formations pour adultes. Et puis à côté de ça, il y a l'auto-formation, c'est-à-dire ce que chacun est capable de mettre en place comme geste pour se former lui-même. Et puis l'éco-formation, la formation par ce qui nous entoure. Donc éco, ça vient de oikos, c'est la maison, l'habitat, donc globalement, finalement notre planète, c'est notre maison. Et donc c'est la formation par tous les éléments qui nous entourent. Alors il y a de l'éco-formation aussi en milieu urbain, ce n'est pas qu'en milieu naturel. Mais je ne sais pas si je vais jusqu'à donner un exemple.
Avec plaisir.
Voilà, par exemple, je marche sur un tronc d'arbre. La première fois qui est au sol, la première fois que je vais marcher, je vais chercher mon équilibre. Puis plus je vais marcher sur ce tronc d'arbre, plus je vais trouver de l'aisance. Donc finalement, c'est ce que nous renvoie les choses qui nous entourent. Donc, et puis un jour, il pleut. Alors je me sens très à l'aise, je marche. Et puis là, je glisse parce que le tronc est glissant. Et finalement, j'apprends que quand c'est mouillé, voilà. Donc il y a des allers-retours comme ça dans notre interaction avec ce qui nous entoure qui fait que on apprend, on se forme.
L'expérience un peu, l'empirisme.
Ouais, tout à fait.
Alors, quels sont les objectifs principaux de l'éco-formation ?
Déjà, en prendre conscience. Moi, je dirais, pour aller dans le sens de ce que Marie-Laure vient de décrire, c'est cette idée qu'on n'a jamais fini d'apprendre, finalement. Formation au sens de mise en forme de soi. Et cette mise en forme de soi, elle a lieu tout au long de la vie. Donc, comme le disait Marie-Laure, avec ces trois entrées, est-ce que c'est moi qui me mets en mouvement pour apprendre de nouvelles choses ? Est-ce que c'est les autres qui me forment, mais dans la rencontre ? C'est-à-dire que chaque, finalement, rencontre est l'occasion pour moi d'être différent et de m'enrichir de ce qu'est l'autre, et l'oikos effectivement qui est cet environnement qui peut être nature ou pas, mais c'est la mise en lumière de ça. Et finalement notre travail, il est de se dire que quand on commence à regarder ce qui se passe pour nous dans notre interaction avec le monde, avec ce milieu qui nous entoure, c'est là qu'on devient conscient, et plus on devient conscient, plus on alimente également cette formation de soi par ce milieu là et c'est un peu ce qui s'est joué pour nous tous et toutes dans ce travail. C'est cette impression de mettre en lumière des souvenirs de nature, et plus on les mettait en lumière, et plus ça nous rendait attentifs au monde qui nous entourait, et on a vraiment noté ça chez chacun et chacune d'entre nous.
On va reparler justement plus en détail tout à l'heure du livre et de ce que vous y racontez. Est-ce que l'éco-formation devrait être enseignée à l'école en tronc commun?
Alors, ce n'est pas un enseignement en tant que tel, mais en tout cas, il faut prendre en compte l'éco-formation, effectivement, à l'école et puis un peu partout dans notre société, là où on apprend. Parce qu'il y a un enjeu derrière ça, évidemment, c'est un enjeu d'aller vers l'éco-citoyenneté et être attentif à ce qui nous entoure. Ça peut nous permettre aussi d'aller vers un chemin où on est plus respectueux de ce qui nous entoure.
Quel est votre parcours, juste avant de vous demander comment vous en êtes venu à participer à ce livre, votre parcours d'abord, allez Marie-Laure.
Moi j'ai un parcours dans l'éducation populaire essentiellement, et puis après j'ai fait un petit détour par l'enseignement agricole technique. J'ai travaillé à l'Institut juste à côté, l'Institut Agroflorac, et puis maintenant je travaille dans l'éducation à l'environnement au FREN, qui est le réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement.
Nathalie.
Alors, moi, j'ai commencé par être institutrice, professeure des écoles, donc d'abord à la Paillade, à Montpellier, en zone d'éducation prioritaire, avant de venir en Lozère enseigner à Vibron pendant 16 ans. Et puis ensuite, je suis devenue conseillère pédagogique, donc j'ai travaillé pour l'inspection de Florac, et désormais, j'ai changé complètement de voie, ou en tout cas une évolution professionnelle, puisque je suis devenue personnelle de direction, et je suis actuellement proviseure adjointe dans un lycée, un gros lycée de Bagnoles sur 16.
Voilà. Justement, puisque tu as la parole, comment t'es arrivée dans l'aventure de ce livre ?
Alors, tout a commencé grâce à Marie-Laure, qui est venue nous démarcher en 2017 pour participer à la recherche-action Grandir avec la nature, donc recherche-action qui a été initiée par le FREN, dont Marie-Laure parlait tout à l'heure. Et c'est une recherche-action qui nous a impliqués. Nous étions à ce moment-là 14 enseignants impliqués dans l'école dehors. Et justement, on s'est retrouvés dans cette réflexivité de finalement, quand on fait l'école dehors, nous faisions chacun l'école dehors dans notre coin, un petit peu à notre sauce. Et le fait de mutualiser nos pratiques, d'échanger sur ce que ça produisait sur les élèves, sur les enseignants, ça nous a mis en réflexion. On a créé un groupe assez fort. Bon, les recherches ont publié là récemment. Et par ailleurs, on a eu envie de continuer cette aventure pour finalement s'interroger sur, en allant plus loin, est-ce que nos élèves sont formés par l'école dehors, mais qu'est-ce qui se joue pour eux à ce moment-là? Et c'est tout naturellement qu'on a tiré le fil de l'éco-formation, y compris pour les adultes.
Mmh. Marie-Laure.
Peut-être pour compléter, c'est vrai que y a quelque chose de fort qui s'est noué dans cette recherche-action Grandir avec la nature, entre les uns et les autres. Et un des résultats de la recherche, c'est d'avoir donné de l'appétence pour la recherche à un certain nombre de participants à ce projet. Et quand on s'est retrouvés aux rencontres internationales de la classe dehors à Poitiers, il y a maintenant presque 2 ans, pour présenter les résultats de cette recherche. On s'est retrouvé autour de Dominique Cottereau, qui porte l'éco-formation avec le groupe de recherche en éco-formation, le GREF, qui rassemble les chercheurs qui s'intéressent à ce sujet. Et Dominique, elle avait travaillé autour des récits de vie, des récits de relations à la nature et de ce que ça pouvait produire déjà auparavant. Et quand on s'est retrouvés là sous les platanes dans le parc de Blossac à Poitiers, on s'est dit « Ah, Dominique, tu voudrais pas nous accompagner ? » Ça fait longtemps qu'on s'interroge les uns et les autres sur pourquoi cette appétence, cet amour de la nature, qu'est-ce qui nous attire ? On aimerait bien essayer de comprendre et peut-être que écrire nos récits, nos histoires de vie avec la nature pourrait nous aider à ça. Et elle a un petit peu réfléchi, mais pas trop longtemps. Et elle a accepté.
C'est ça, c'est un rôle plus d'accompagnement que de coordination, en fait.
Finalement. Ah non. Elle, ça, comme disait Marie-Laure, ça fait quand même 30 ans qu'elle enquête sur l'éco-formation. Donc, c'est elle qui a fait toute l'analyse de nos récits, parce que d'abord, elle nous a guidés vers l'écriture. Et ensuite, il fallait en extraire l'analyse qui permettait de repérer dans chacun de nos récits ce qu'était l'éco-formation et comment on se mettait en forme grâce à cet environnement. Et ça, c'est elle qui a fait, avec une expertise qui fait que l'IA n'est pas encore tout à fait à la hauteur.
Espérons qu'elle ne le soit jamais, ou alors avec intelligence, mais bon, on n'y est pas encore. Le livre, si j'ai bien compris, rapporte 9 récits de vie en tout et pour tout. Allons-y, un petit résumé peut-être des vôtres. Donnez-nous quelques images radiophoniques de ce qui apparaît et de ce que vous avez écrit. Marie-Laure. C'est difficile comme exercice.
Oui, c'est difficile. Je ne sais pas s'il faut que je lise un extrait ou, s'il faut raconter.
Tu es absolument libre de faire tout ce que tu veux.
Voilà, mon récit est le dernier dans l'ouvrage parce que c'est un peu particulier. Moi, j'ai vécu en banlieue sud de Paris. J'avais des parents qui n'avaient pas de pratique dans la nature, donc finalement très peu d'expérience. Et pourtant, quand on regarde, parfois les enfants, vous savez, on fait des crabouillasses. Alors en bas de l'immeuble, il y a un petit espace. Alors les pelouses étaient interdites à l'époque, hein, on ne pouvait pas y aller. Maintenant, ça avance, on n'y va pas pendant l'hiver et puis pendant les beaux jours, on peut y aller. Mais donc on faisait des petits trous dans la terre et puis un petit peu d'eau, on mélangeait ça, on faisait des tambouilles, on s'inventait des potions magiques, voilà, en disant qu'on était des sorciers et des sorcières ou alors simplement pour faire la cuisine et imiter les grands. Donc on se rend compte que là il y a quand même déjà quelque part une première mise en lien avec des éléments naturels. Et puis, en fait, j'ai découvert la nature à travers les camps, les colos, d'où l'importance, en fait, de ces lieux où on s'aperçoit actuellement qu'il y a une décrue depuis déjà une vingtaine d'années de la fréquentation des camps. Et pourtant, c'est essentiel parce que beaucoup de ces camps, de ces colos permettaient de rentrer en relation avec la nature. C'est là que j'ai découvert et j'ai vu à quel point ça me fait du bien, c'était beau, enfin voilà, ça touchait aussi une corde sensible chez moi.
Et si d'ailleurs, pour faire écho, on a la chance d'avoir les petits cailloux qui font encore des camps nature, et on les salue. Et toi, Nathalie, alors une petite carte radiophonique de tes écrits, ou pareil, un petit retour.
Oui, déjà peut-être pour défocaliser sur tout le groupe, je pense que ce que Dominique nous a accompagné à faire, parce que c'est pas facile de choisir son entrée dans cette relation qui est quand même multiple et complexe depuis 50 ans, moi presque, que je vis. Donc quels sont les événements qu'on va mettre en lumière? Donc chacune et chacun, on a essayé de chercher qu'est-ce qui était vraiment signifiant dans notre relation avec cet environnement. Alors pour deux d'entre nous, ça va être la construction d'un lieu de vie. Donc on a beaucoup parlé de la construction de notre lieu de vie, c'est le cas pour moi. Pour certains, ça va être une relation à un élément particulier. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est l'air? Pour d'autres, c'est un cheminement tout au long de la vie. Enfin, du coup, chacun a eu son entrée et ça, c'était intéressant déjà de se dire de quoi j'ai envie de parler. Donc moi, effectivement, j'ai parlé de mon lieu sur lequel je suis depuis maintenant presque 15 ans et de mon histoire avec la Lozère. Donc forcément, voilà, il y a des petits moments un petit peu particulier avec des beaux et des moins bons. Je peux lire un petit extrait
avec
peut-être.
Plaisir.
Et puis doucement, lentement, apprivoiser les espaces proches, puis plus longtemps, plus lointains de la maison. Mettre les mains dans la terre pour faire le jardin, descendre tout en bas au ruisseau pour nettoyer la crépine et éviter ainsi de ne plus avoir d'eau à la maison, se promener et rencontrer nos paysages. Une des balades devint vite notre préférée. Monter sur la Camp de l'Hospitalet, le plateau calcaire qui domine notre vallée. Nous traversons d'abord une forêt de chênes et de châtaigniers, où, l'été, la chaleur garriguesque du sol ralentit nos pas dans cette première montée. Puis, nous reprenons notre souffle sur un chemin plat, bordé de bouleaux aux feuillages si délicats, avant d'entrer dans le temple de la hêtrée. Mes arbres préférés. Leur puissance, conjugué avec l'originalité de la forme de chacun d'eux, m'émerveille. tantôt fier et majestueux, pouvant s'étirer jusqu'au ciel, tantôt en couple, enlacés pour l'éternité, ou rivalisant dans des formes uniques lorsqu'ils sont sculptés par la violence des éléments, chacun semble décliner son identité en choisissant son port unique.
Si vous en voulez plus, auditeurs, auditrices, vous allez commander le livre sur le site de l'Armatan, où il est dit, d'ailleurs, dans le petit, c'est pas le résumé du, voilà, mais il dit que ce livre s'inscrit dans un projet politique visant une transformation profonde de nos rapports à l'environnement et de notre matière, de notre manière, pardon, d'habiter le monde. Bon, on va pas se cacher que c'est un véritable défi, quand même.
Ah oui, tout à fait.
Alors l'idée c'est pas de donner des leçons, hein, c'est plutôt d'accompagner
C'est une autre entrée dans l'écologie. En fait, il y a l'écologie au sens de raisonnablement, on a tous les rapports qui nous montrent qu'il faut qu'on s'investisse. Bon, ça n'a pas l'air de nous mettre vraiment en mouvement, ou en tout cas peut-être pas assez.
Malheureusement.
Là, c'est une autre entrée, c'est de dire finalement qu'on prend soin de ce qu'on aime. Donc d'abord, dans un premier temps, essayer de repérer ce qu'on aime. Et quand on est en amitié avec ces êtres non vivants, enfin vivants non humains, pardon, eh ben, on a peut-être une attention particulière au monde et un envie du care, du soin.
Marie-Laure, tu veux compléter peut-être ?
Y a un enjeu en termes d'éducation effectivement énorme à intégrer finalement cette éco-formation dans l'apprentissage tout au long de la vie, pas seulement les enfants, on cible souvent les enfants, mais les adultes aussi en ont besoin. Et en faisant ça, en fait, on travaille à la fois notre relation à nous-mêmes, la relation aux autres et puis la relation au monde, comme le disait Nathalie.
Alors les discours climato-sceptiques, etc., où ça doit vous faire bondir justement en ce moment, est-ce que justement ce serait la bonne façon de faire et de combattre un peu ces idées
Peut-être qu'on pourrait faire un récit d'éco-formation à certaines personnes.
Oui, ça pourrait aider. Après, bondir, chacun en est là où il en est, donc il faut prendre chacun, là où il en est, et puis trouver des moyens de l'accompagner. Et on se dit que finalement, les récits de la relation à la nature de chacun pourraient aider.
Et c'est ce qu'on a un petit peu vu dans notre animation pour la sortie du livre, et c'est ça qui va nous intéresser désormais d'explorer, c'est comment ce que nous avons exploré à titre individuel, en fait, a une résonance quasi universelle. C'est-à-dire que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, finalement, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à raconter sur ce qu'il a vécu avec, justement, ce vivant non humain. Et ça a été très émouvant lors de la sortie du livre à Paris, d'avoir ces retours de personnes qui, parfois très émues, ou les larmes dans les yeux, venaient raconter cet arbre auprès duquel elles allaient se ressourcer, ou cet animal qui les avait accompagnées. Et donc, je pense que là, on touche à un endroit qui est juste humain, et qui nous relie tous. Voilà. Et je crois que c'est ça vraiment qui donne du sens à ce travail-là, c'est aller chercher la reliance, parce qu'une fois qu'on se relie, on se sent plus ensemble pour agir.
Habiter le monde au fil de soi, c'est un titre que vous avez choisi ensemble en discutant, en vous disant, voilà, il y a eu un brainstorming.
En collectif, tout ce travail a été fait en collectif, alors pas les récits, hein, chacun a travaillé de son côté avec sa propre histoire, mais l'analyse des récits s'est fait collectivement, le choix du titre s'est fait collectivement, c'est aussi
l'ordre.
Important, l'ordre également des textes, tout.
Il est sur le site des éditions L'Armatan. Je vous mets le lien tout à l'heure, auditeurs, auditrices, habiter le monde au fil de soi. Récit de vie en éco-formation, c'est aux éditions L'Armatan, sous la coordination de Dominique Cottereau. Et je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas noté, mais il est à 27 euros, je pense. Et c'est une vingtaine d'euros en numérique. Ici à Florac, peut-être ?
On espère.
On pourra le trouver en...
On espère. On va aller prendre quelques contacts.
Allez, croisons les doigts. Merci beaucoup toutes les deux.
Merci
à vous.
Et longue vie à votre livre. Allez, dans un instant, Gary de Massilian Sound System et Zebda et Hakim de Zebda, je vais y arriver. Bah justement, on écoute un petit morceau de Gary parce que ça fait du bien. Merci, bonne journée.
Les fracas. fracas de la plaine, des oiseaux de malheur qui te disent à la tienne à n'importe quelle heure. Ils ont eu de la veine, ils n'ont jamais eu peur. Ils rêvent sous Tranxen que le monde est meilleur. Les fracas de la plaine, des oiseaux de passage qui te disent à la tienne, même s'ils ont la rage, pour la coupe est pleine, avant le troisième âge, il faut noyer sa peine quand arrive l'orage. À la tienne, que la vie et le vent nous entraînent. À la prochaine, que la vie nous laisse un peu de temps. Les fracas de la plaine, des oiseaux migrateurs qui te disent à la tienne, même sous l'équateur. Y'en a eu à Cayenne, enfermés par erreur. Y'en a même à Phnom Penh et toujours en sueur. À la tienne, que la vie et le vent nous entraînent. À la prochaine, que la vie nous laisse un peu de temps. Les fracas de la plaine, des oiseaux mazoutés qui te disent à la tienne quand ils sont échoués. Même s'ils ont la haine, ils peuvent plus bouger. C'est pire que des chaînes, leurs ailes sont niquées. À la tienne, que la vie et le vent nous entraînent. À la prochaine, que la vie nous laisse un peu de temps. Des oiseaux à la plaine, il n'y en a plus tellement. Quand il y en a un qui traîne, il reste pas longtemps. Il chante à la prochaine, et s'envole en riant. Quand je dis à la tienne, j'y pense tout le temps.
Non, 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 pas question de mener une vie à la con. Allons danser autour d'un feu de camp. Avec du vin et du boucan.
C'est une mélodie que j'ai piquée à comment il s'appelle? C'est le chanteur de reggae là. C'est une chanson pour une chanson. C'est nous quand on écrit des chansons, on essaie d'être un peu le haut-parleur de la communauté, d'être un peu et de donner de la force. C'est pour ça qu'en ce moment, notre rôle est d'importance aux artistes, tu sais.
Excusez-moi, la Nationale 13, c'est bien.
La Nationale 13, vous prenez...
Sur le chemin.
Tu prends vers Carcassonne.
Parce que c'est une voie sanitaire.
Et arrête-toi, la boulangerie, il y a du bon pain de seigle. Il y a du bon pain de seigle.
J'ai fait parce que après, je suis monté parmi, obligé de passer. Après, je suis arrivé dans l'Aveyron, on est le château, Rodez, tout ça, tu as vu, j'ai pris la route, Bertolet.
Les mecs, tu les sors de Toulouse, ça vous plaît.
Ah, c'est fou, ça.
Le Marseillais, qui fait Aix-en-Provence,
il est permis. Et moi, Aix-en-Provence.
Vas-y, l'aéroport, il est à Marignane. C'est à 50 km de Marseille.
Et alors, je crois qu'on pourrait aller moyen de prendre l'avion. Vas-y, vas-y. Ryanair pour aller à Carbone. Marseille, on a inventé le reggae marseillais.
Bonne mère.
Salut Gary. Ça va? Ça va bien?
Ça va et toi?
Impeccable.
C'est quoi ta rencontre avec René?
Avec René, on s'est rencontrés par des amis communs. René, il était assez pote avec Gizmo, avec Mourad et tout. Et quand j'ai fait les tournées du collectif 13, tu sais, on invite, dès qu'on peut inviter des collègues avec nous sur scène, on le faisait. Et René, évidemment, est venu jouer avec nous. Moi, je suis un éternel petit frère, tu sais. J'ai toujours, et Massilia, je suis le plus jeune des trois, là. Et j'ai toujours été aimé bosser avec des gens plus vieux que moi. Et avec René, c'est génial. C'est quelle chance on a de pouvoir festoyer
c'est beau, ce que
avec
tu
un
dis.
Gars comme ça. Eh ouais, mais c'est ça le truc. Il faut parler avec le cœur à un moment donné. Il n'y a pas que le cassoulet dans la vie.
Alors quand même, tu viens avec nous dans le délire, dans l'interview.
Regarde, j'y suis.
Il y a pas
la mienne.
Vous avez du feu, monsieur, s'il vous plaît. Tu me redonnes du feu, s'il te plaît.
Ah, c'est génial. Tu penses quoi de la carrière, l'importance d'un artiste comme René Lacaille?
Ben René, déjà, c'est le... Il est ce qu'on a envie de devenir. Moi, j'ai envie d'être comme René, de chanter, d'avoir 75 ans, de faire des tournées, de chanter, d'écrire des chansons. cette vie de passion exacerbée jusqu'au bout, quoi, comme Bob Dylan, Never Ending Tour, tu vois. Donc déjà René c'est ça, quoi. René c'est ça, et puis c'est le dépositaire d'un truc qu'il joue depuis qu'il a 7 ans. Il a commencé avec son papa, avec son grand-père, avec son... C'est extraordinaire la force de la musique folklorique, la force du folklore. Et voilà, et avec ses codes à lui, il peut dialoguer avec n'importe qui, il peut dialoguer avec la modernité, et donc c'est sensationnel. Nous, rapidement, on s'est trouvé étriqué dans le reggae, il a fallu qu'on aille un peu le mélanger, le confronter à d'autres choses, donc les musiques traditionnelles, donc dès qu'on va quelque part, on a toujours été curieux de tout ça. Et évidemment, quand on est allé à La Réunion, on a rencontré Daniel Warraud, tout ça, le Maloya, ses complexités rythmiques, etc. Et donc voilà, c'est un plaisir à plein de niveaux de pouvoir être devenu un collègue à René. Mmh. Ouais.
Mmh. Évidemment, Massilia Sound System, mais évidemment, surtout, moi, un groupe que j'adore, c'est la Wistar. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être un peu plus jeune, j'en sais rien.
Ouais, par contre, tu le prononces mal. Hein. C'est la Wistar. La Wistar.
Qu'est-ce que tu as?
Non, c'est rigolo.
Ouais, je suis comme...
Comment tu dis Wistar?
Wistar.
Wistar.
Wistar, je suis du Nord. Comme
Un jour, on joue avec Jade Villot. Il m'a fait, j'adore votre groupe, Wildstar. Wild. J'ai fait, frère, c'est pas Wildstar, c'est pas le Velvet. C'est le Y. C'est quoi le Y?
La Y.
Le Wistar, ben ouais, le Wistar, c'est une des cordes à notre grand arc du Massilia. Tu sais, on a créé tous ces petits projets parallèles. On court toujours après la même chanson, nous, on ne change pas de casquette. Hein. On le fait sur d'autres tempos parce qu'on ne peut pas tout faire dans Massilia, souvenir tous nos fantasmes. Moi, j'ai toujours eu envie de faire du punk rock, donc de temps en temps, je me remets le couvert. Là, je pars me refaire 8 dates avec Wistar. Alors, je ne ferai pas du punk rock toute l'année, tu vois. J'aime bien avoir ces plusieurs cartes et je trouve que le reggae et le punk rock, ça dialogue vraiment au plus serré. Et j'ai toujours l'impression d'être le même, moi, d'envoyer la même chose, sauf que le tempo change des fois.
Voilà. 70 ans de carrière pour René.
Ouais.
Toi, tu en es à 40.
Mmh.
Non?
C'est mes deux vieux collègues qui sont à 40. Moi, je suis à 33.
33.
C'est pas mal quand même. J'ai commencé à 92, voilà, ouais. Le 8 juillet, je fêterai mes 33 ans de scène avec Massilia.
Est-ce que ça te fait rêver de faire un projet comme René, là, le grand bal à Gary?
Ouais,
Attends, avec...
en tout cas, une grande caravane avec plein de collègues talentueux que j'aime et avec qui on ferait danser les gens, évidemment, mais c'est ce que j'essaye de faire en permanence, en fait. On est plein de projets mutuels, collectifs, où on se croise... Je pars souvent avec Mourad et Blue de Massilia. On va se refaire un petit collectif 13, un de ces quatre. On aime se mélanger. Et puis, ça a de la force quand on est tous ensemble. Là, Kimous, Gizmo, Mourad, machin, nanana. On a tous un peu le même regard sur les choses et le même rapport à notre fonction de chanteur. Tu vois, on n'est pas en face d'un miroir à essayer de s'inventer un truc. On est là pour faire passer du bon temps aux gens, et surtout en ce moment. Notre rôle est d'importance, tu vois, de mettre un peu les gens en lévitation 2 heures, et pour nous-mêmes aussi, hein, je vais te dire. Donc, a fortiori en ce moment.
Justement, je parlais avec Soro Solo tout à l'heure, on a parlé pendant 25 minutes. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. On trouve que les artistes sont un peu absents. Quel est ton point de vue là-dessus et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen et en tant qu'artiste?
Ouais, moi mon rôle c'est faire danser les gens le samedi soir. Hein. Donc c'est ce que qu'on s'astreint à faire. Et puis dans ce genre de combat, c'est mètre carré par mètre carré. Donc moi j'organise des mètres carrés de solidarité, d'humanisme et de bon esprit. Tu vois, et donc les mètres carrés s'agrègent et voilà, ce soir on va faire, voilà, va y avoir 500 mètres carrés de solidarité, de bon esprit, de gens différents qui n'ont pas peur les uns des autres, etc. Nous notre rôle il est à ce niveau-là. Après, tu vois, quand les médias viennent nous parler, on leur répond, sans souci. Après, être présent dans les médias, pas être présent dans les médias pour les artistes. Je pense que les artistes, ils ont, leur rôle, c'est d'écrire des bons spectacles qui racontent des choses importantes, qui rassemblent les générations et les gens, et de faire passer des bons moments aux gens. Tu sais, c'est pas étonnant s'il y a autant de monde qui va voir des comiques en ce moment, quoi. Ça veut dire que la société, les gens, ils sont obligés d'aller payer pour rigoler, quoi.
tu vois, ils n'arrivent plus à rigoler entre eux, ils n'arrivent plus à rigoler en famille, ils n'arrivent plus à se mélanger, à créer ces moments que nos grands-parents créaient de suite. Ils bossaient comme des chiens toute la semaine, mais le samedi soir, ça rigolait, quoi. Tu vois. Donc voilà, moi, mon rôle, il est plutôt là. Hein. Pendant le Covid, on était à l'arrêt. Moi, des fois, je sortais dans la rue, je disais des conneries à des mémés, j'essayais de faire rigoler les gens. Naturellement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est... Je sortais pour dire des conneries, pour rendre le moment un peu plus léger, pour rendre...
Peine de seigle.
Pas des meetings politiques.
Hein. Mais oui, non. Hein ?
On fait pas des meetings politiques.
Mais non.
On a pour faire de la musique. Après, elle est plus belle quand elle a du sens, la fête, évidemment. Moi, j'ai 3 ans de plus que lui dans la musique, 35.
C'est enfoiré. Un an de moins dans la vie et 3 ans de plus dans la musique.
On dit moins. Lui dit tonton, pour dire tonton.
Pas moins.
Tu prends tonton. Tu prends tonton. Hé, tonton, viens, je te prends. Tu prends tonton. Tu vois, c'est deux mots différents. Tu prends tonton. Hé, tonton, viens, je te prends. Tonton, les cabas, ils sont trop lourds. Allez, monte dans la voiture. Je montais à la cité, mon père m'a dit. Lé.
Quel bon morceau.
Ouais, 113. C'est un phénomène.
Ouais, 113, et avec DJ Mehdi, qui avait fait la musique, me semble-t-il.
Hé, tonton, les cabas, ils sont trop lourds.
Allez, monte dans la voiture,
j'ai ouais, Bilal,
monte,
il
monte,
s'en va.
Monte, Bilal, monte, hé, Atmel. Allez, monte, monte. Allez, on y va. Hé. Hey. Hé, hey, mes Karim, tonton du bled.
Tonton du bled.
Pour tous les Miss Mourt. Bled ou Bledi. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit.
Comment on gère le succès en fait quand il débarque?
Ouais, moi c'est des questions que je comprends pas, ça.
Désolé non, d'avoir la. D'avoir
des, non, mais c'est des choses, on n'est pas du tout dans ce truc-là. Non. Donc on a une vie normale. Et on a toujours. On n'a jamais été dans des. Moi je suis toujours allé à la plaine, j'ai toujours fréquenté le même bar, je suis toujours le même. Et les gens ils ont.
Il est connu depuis qu'il a 14 ans.
Mais non, mais il n'en tient qu'à toi.
Être connu, ça change rien.
Il n'en tient qu'à toi. Il n'en tient qu'à toi.
Et il n'en tient qu'à toi, exactement.
Quand il n'en tient qu'à toi. Après d'être une figure, d'être un machin, d'avoir de la responsabilité. Quand tu as le micro dans la main, tu as d'une heure, c'est pas rien. Donc il y a cette responsabilité. Quand il y a un concert, il faut avoir ce truc-là quand même. Mais non, il n'en tient qu'à toi. Goldman, il a vécu 10 ans à Marseille, il sortait avec son bonnet discret, personne ne le branchait. Tu vois? Parce qu'il n'avait pas envie de se faire brancher, personne ne le branchait. Si tu vois ce que je veux dire? Même quand il y a un mec comme Goldman, t'imagines, il se promène à Paris, tout le monde le brancherait. Ben Marseille, des gars le branchaient. Parce qu'il n'avait pas envie qu'on le branche, qu'il était, tu vois. Soprano, il habitait dans mon quartier, il vient chercher son petit à l'école, il n'y a personne qui le branche. Tu vois? Parce qu'il est dans une attitude, il vient chercher son petit, il n'y a personne qui le branche à Saïd.
C'est l'attitude que tu
as. C'est l'attitude en fait, que tu as.
Voilà. Alors là,
à la télévision. Dès que tu passes à la télévision, tu appartiens aux gens un peu. Dès qu'ils te voient dans un écran, dans leur téléphone, tu leur appartiens. Ils peuvent se permettre de venir s'asseoir à côté de toi.
Te tutoyer. Toi.
Même tu restes avec ta femme, ils viennent s'asseoir à côté de toi, les mecs, ils s'en foutent. Donc au bout d'un moment, ça dépend de comment tu gères le truc. C'est tout.
Auditeur, auditrice, il y a une voix mystère un peu qui est là. Est-ce que tu peux dire qui tu es?
Si, j'ai fait une interview tout à l'heure, non? Ah non, c'est pas la même.
Vas-y.
Je suis un Toulousain, ami de notre ami Gary, je m'appelle Hakim. Mais bon, voilà, après, c'est juste pour dire, par rapport à la gestion du succès, je répondais à la question. Parce que même si j'ai 3 ans de plus que lui dans la musique, j'ai quand même eu plus de succès que lui, tu vois.
Appelle-moi ma copie et ma coupe de cheveux, quand même.
Voilà, après, parce que je suis arrivé après. Parce que j'ai un an de moins, justement.
Et voilà, mon frère.
J'ai copié.
Je trouve que c'est une génération aussi bienveillante que vous avez eue. Alors, il y a des jeunes artistes qui vont se produire avec vous aujourd'hui, qui sont absolument extraordinaires. Il y a une espèce de bienveillance dans votre génération au niveau d'artistes, les trios Gizmo notamment. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à la fin des années 90-2000. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est vrai?
C'est les années 90 entières.
Oui, bien sûr. C'est les années 90.
cette bienveillance, ce rapport à la musique. Et puis on est tous arrivés par hasard là-dedans. Nous. On arrive, on commence tous en s'amusant, en prenant du plaisir. Et au bout d'un moment, notre petit moment de plaisir, ça devient un truc qui plaît aux gens. Et voilà, donc on s'embarque là-dedans. Moi j'étais étudiant, j'arrête mes études pendant 2 ans, on passait à la télé avec Massilia. Donc j'arrête mes études, je me dis j'arrête 2 ans, on vit le truc à fond, et voilà, ça fait 33 ans, tu vois. Donc on est arrivé là aussi par une petite porte de dérobée, et on a toujours eu ce rapport aux gens. Et puis, je sais pas, je dois connaître par leur prénom les 2000 plus gros fans de Massilia, quoi. Tu vois, donc c'est pas, je pense qu'Alain Souchon, il connaît pas le prénom de ces 2000 plus gros fans. Non, mais c'est un rapport au métier qui est comme ça aussi, tu vois.
Enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des faces de stade.
Est-ce que Zebda connaisse tous les fans?
Tu parles de moi, quand le fait d'être connu, ça change quoi? Ça change de regard des gens sur toi. Après, c'est la manière que tu as de réagir. Tu disais tout à l'heure, moi ça m'est arrivé où j'étais au restaurant, le mec il s'assit, il dégage au bout d'un moment. Je suis pas quelqu'un qui se laisse emmerder. Après, Gary a dit quelque chose d'important, c'est à partir du moment où tu as un micro, c'est pas un exemple, mais tu es obligé de faire attention. Comment tu te comportes, comment tu... Ce que tu dis, tu vois. Bon, après, tu peux avoir... tu vois, moi, je suis anti-sioniste, je le dis, tu vois. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et le fait d'avoir eu du succès, moi, ça m'a fait me rendre compte à quel point j'ai eu de la chance de tomber par hasard dans ce métier, avec mon frère en plus, où on a prolongé l'enfance avec mon frère. À l'âge où les frères ils vont travailler, on a fait de la musique ensemble. Donc on a continué à s'amuser, tous les deux. On a un an d'écart, tu vois. Donc du coup, ça nous a permis de vivre pleinement cette histoire-là. Et puis comme il le dit, dès qu'on rentre dans le bus, on a 18 ans, tu vois comment on est habillé, on a 50, c'est plus de 55 ans, on est habillé toujours pareil depuis qu'on a 18 ans. On a ce rapport-là aussi. Et puis moi, quand je, tu sais, dans la musique, c'est à 20 ans que tu as les meilleures idées. Donc je bosse souvent avec des petits de 20 ans et je me régale à avoir de l'horizontalité avec eux et à presque plus faire de bénéf moi qu'eux avec moi, quoi, tu vois. Et y a ce rapport-là aussi, tu sais. C'est pas dans tous les boulots que tu peux dialoguer horizontalement avec un petit de 20 ans qui t'apporte quelque chose. Tu vois. Moi, j'apprécie beaucoup ce truc-là aussi. Voilà. De plus en plus.
Est-ce que vous avez tous les deux l'envie et des idées d'écriture de chansons alors, tu dis qu'on a les meilleures idées à 20 ans? Mais là aujourd'hui, est-ce que vous avez encore envie d'écrire des chansons et
On écrit des chansons tout le temps, en permanence, surtout lui. Mais on écrit des chansons tout le temps.
Surtout
en ce moment, depuis 2-3 ans,
j'ai une veine
d'écriture, mais après, c'est l'inspiration personnelle. Tu vois, les sujets sociétaux, presque tout le monde en parle et puis on voit bien. Donc c'est vraiment de l'inspiration personnelle, parler de situations personnelles. Mais oui, l'envie, elle est toujours là parce que justement, ça fait 35 ans qu'on y est et qu'on sait la chance que c'est de faire ce métier, le privilège. Avec tous les sacrifices qu'on a fait pour en arriver là, ça devient un privilège. Donc,
puis à ce moment, on se doit de poétiser le quotidien, tu sais. Alors évidemment que... Moi je trouve que je suis très inspiré en ce moment, mais pas inspiré pour chroniquer ce qui se passe, hein, tu vois, mais ça fouette les idées, ça fouette l'artiste en ce moment. Mais voilà, on doit poétiser ces moments, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur notre rôle, notre fonction d'artiste en ce moment, qui est importante, qui est... Tu vois, c'est 2 heures qu'on va passer ce soir. Là, on va te recharger un peu tout le monde. Là.
Et lundi, c'est une récréation pour nous, là.
Lundi, repart avec le sourire, quoi, tu vois, au charbon. Et nous aussi.
Évidemment. Nous aussi, parce qu'on ne se voit jamais avec Gary.
Alors, en plus, deux fois par an. Cette dimension-là,
ouais. Là, on se voit deux fois par an. On est des frères de loin, comme on dit, tu vois. Donc, comme on ne se voit jamais, on ne s'appelle jamais, à part quand son téléphone, il m'appelle, ça me fait exprès.
Je t'envoie plein de petits cœurs.
T'inquiète, jamais tu likes.
En fait, il est en tête de mes favoris. Dès que je raccroche, souvent, je raccroche trop vite et j'appuie sur Hakim.
Allô, Gary, ta gueule, t'es fait en poutre.
Ça fait 10 ans qu'il me traque.
Je suis tout mon téléphone.
Non, je t'envoie plein de petits cœurs et tout.
Oui, des petits cœurs parce que je t'envoie des insultes.
Voilà. Tim, après le buzz que vous avez fait dans les années 90, Mousse et Hakim, pour moi, ok, c'est acté que c'est Zebda, mais il y a toujours ce nom que vous mettez derrière. Est-ce que c'est important pour vous, alors que Mousse et Hakim, c'est...
Non, il n'y a rien d'important. Après, c'est la vérité. Donc, je veux dire, moi, si on me dit, est-ce que je peux mettre Mousse et Hakim de Zebda sur l'affiche, je vais dire oui. Si on dit Mousse et Hakim de Zebda, ben oui, puisque c'est de Zebda, comme Gary de Massilia.
Moi, je me souviens de Marseille, des fois.
Si on mettrait Mousse et Hakim de Trio, ça me ferait chier, par exemple. Ou de Hayam, ça me ferait chier. Mais Mousse et Hakim de Zebda, non, puisque c'est la vérité.
Tu sais, je me promène à Marseille, le mec passe à Marseille, il fait « Oh, Massilia !» Massilia. Même pas, il m'appelle Gary. Hein.
Oui, attends, moi aussi, à Toulouse, c'est ça. « Oh, Zebda, ça va ?» Ouais, ça va, tranquille. Je réponds. Mais après, ça dépend comment tu réagis, c'est tout. Mais après... Ouais. Bon, ma chemise.
Ma question est surtout, est-ce qu'un jour Zebda reviendra en tant que Zebda?
Oh pauvre, c'est question. On dirait les journalistes aux footballeurs. Alors, c'est quoi le transfert l'année prochaine? Pas sûr, j'ai des contacts. Pour l'instant, j'ai des contacts entre Toulon, Clermont, c'est fait de rubistique. Contact rubistique. J'ai contact avec Toulon et Clermont, mais bon,
c'est quoi la différence entre Mousse et Hakim et Zebda? C'est
Mousse et Hakim, ben on a un an d'écart déjà, tu vois, lui il est né à...
Et Zebda, moi je parle.
La différence, hein, ben c'est des projets différents, quoi. Totalement, non, puisqu'on est les chanteurs de Zebda. Donc ça ramène à Zebda, mais c'est différent, puisqu'il y a de... On est deux chanteurs alors que dans Zebda on est trois. Rémi Sanchez qui est clavier de Zebda, il n'est pas là. Bah, Joël, le meilleur bassiste d'Occitanie, il n'est pas là. Donc c'est pas Zebda, quoi.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on n'a pas 50 casquettes, quand on est sur scène, on est toujours les mêmes. Après, évidemment qu'il y a des nuances, de personnel, de répertoire, de tout ça, mais on n'est pas des schizophrènes. Moi, quand je vois Hakim sur scène avec Zebda ou avec Mousse et Hakim ou avec Origine Contrôlée ou machin, j'ai toujours le même artiste en face de moi et il m'envoie la même chose, quoi. On court toujours après la même chanson, hein, cette chanson qui rassemble les générations, qui va nous faire pleurer, qui va nous faire rire, qui va nous faire... qui va rassembler, qui va... Tu vois. Et tu vas presque te dire, tu chantes presque toujours la même chanson. Tu vois, on préfère la Massillon, on préfère la la la. On préfère la la la, les gens ils viennent, ils ont fait l'apéro parking avant, ils sont, avant qu'on commence, ils sont heureux d'être là, presque il n'y a pas le concert, c'est encore la cerise sur le gâteau, mais je crois pas qu'ils écoutent les paroles, qu'ils sont là, ils viennent pour faire le wipe, se faire comme ils vont au parc d'attractions, quoi, un peu comme ils vont. Tu vois ce que je veux dire, on organise des moments, c'est histoire de mètres carrés, là, c'est... Mais ça commence pas au concert, ça commence 2 heures avant dans le parking, quand ils se connectent, ils font un bambou ensemble, machin. Tu vois, c'est ce tout, là, c'est ce tout qui est intéressant. Aioli.
C'est un état d'esprit, quand même, quoi, au-delà de la musique. Je parle de Massilia.
C'est l'accent parisien, un peu, là. C'est un état d'esprit, quoi.
C'est un état d'esprit, quoi, au-delà de la musique.
Tu vois,
ouais, c'est l'accent parisien. Je sais faire aussi, mais c'est lui qui m'influence, tonton.
C'est vrai qu'il y a des côtes de porc, c'est ça.
Ah, là, je mange pas de porc, moi, je te dis. Tonton, prends ton temps.
Merci, là, c'est fini l'interview, là.
C'est bon, là, t'as dit trois questions, ça fait 2 heures qu'on est.
Ouais, attends, il n'y a pas marqué IAM.
C'est bon, ouais.
Pas marqué Akhenaton. J'ai pas Twitter.
Merci beaucoup à tous.
Et puis à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, à Yoli.
Et à Kim, évidemment, auditeur, auditrice. Est-ce que, juste pour finir, t'assures, quand je dis que je suis un vrai fan, on peut avoir une petite pensée pour Lux B?
Mais il y a toujours une pensée pour Lux B. Tu sais, Lux, il est... chaque fois que je suis sur scène, il est derrière moi. Il est toujours... dès que j'ai une décision importante à prendre sur Y-Star ou des trucs comme ça, je me demande ce qu'il dirait, et c'est presque lui qui décide à chaque fois. Tu vois. Donc, toujours là.
Merci Gary du fond du cœur. Merci à Kim. Merci à tous les deux.
Avec plaisir.
Lux B, comment tu fais pour boire autant de bière et jamais tomber en avant?
Je me penche en arrière.
Dis, Lux B, où est-ce qu'on peut danser toute la nuit sans que les flics viennent en courant?
Viens dans ma garçonnière.
Dis,
Luxe B,
oui.
Pourquoi les hommes deviennent-ils cons quand on parle d'identité?
À cause des frontières.
Eddie.
Ouais, Gary.
Luxe B.
Quoi?
Comment on fait pour faire une chanson qui rassemble tout le quartier?
Demande à ta grand-mère.
Si on buvait moins d'apéro, on serait les rois du rock'n'roll. Si on buvait moins d'apéro.
Dis, Luxe B, c'est quoi ce truc cagant et dépressif qui passe en boucle à la radio?
De la chanson à texte.
Luxe B, pourquoi quand t'as l'accent dans ce pays on te prend pour un rigolo?
C'est l'exception française.
Dis, Luxe B, pourquoi ça me parle plus Bob Marley que Gainsbourg ou Léo Ferré?
Son folklorique palaise.
Dis, Luxe B, qu'est-ce qu'on fait si un jour dans un festival on croise Mickey 3D?
On lui dit, qui c'est les plus forts évidemment? C'est l'OM.
Si on buvait moins l'apéro, on serait les rois du rock'n'roll.
Y'a quoi de bon à écouter dans ton pays?
Des chansons marseillaises.
Dis, Luxe B, il paraît qu'à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, il y en a aussi.
J'ai de la hollandaise.
Dis, Luxe B, écoute un peu ce style, je l'ai répété toute l'après-midi.
Je mets mes boules qui est-ce.
Dis, Luxe B, vitote-moi d'un doute, comment on fait pour que Chomp le fosse?
On passe la vitesse.
Si on buvait moins l'apéro, on serait les rois du rock'n'roll. Si on buvait moins l'apéro.
Et voilà, auditeurs, auditrices, vous l'aurez compris, on a bien rigolé avec Hakim et Gary, des personnes extraordinaires qui nous ont vraiment laissé du temps alors qu'ils étaient très très occupés. Puis ça fait du bien quand même de se replonger un peu à la fin des années 90-2000. Et puis ils tournent encore toutes les dates, évidemment vous voulez les retrouver sur leur site respectif. N'oubliez pas à habiter le monde au fil de soir, récit de vie en éco-formation. C'est disponible sur le site L'Armatan. Allez, on vous souhaite un excellent moment. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À très vite, ciao.